puis la prédication se partage finalement, c'est préparé finalement longuement, pas trop longuement, mais sur divers mois quand même, à la préparation du baptême d'Adrien. C'est fait à travers son témoignage, il propose des textes. Et en introduction de cette prédication, j'ai eu envie moi aussi de livrer un tout petit témoignage qui est à la limite du personnel. Vous avez choisi le texte de l'épître de Paul aux Galates. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Et si je suis rentré dans la foi, c'est pour aller découvrir ce texte au départ. Puisque j'avais cette intuition, comme beaucoup de gens, hein, il n'y a rien de personnel finalement, cette intuition que tout était beaucoup plus uni que les apparences. Il y avait beaucoup de fantasmes, des différences, et ces barrières identitaires ne me parlaient pas. Ensuite, je ne connaissais pas du tout ce texte, et puis je l'ai découvert, et ça a activé finalement, on va dire un idéal d'adolescent, de découvrir ce texte. Et donc je suis rentré dans cette perspective-là, de témoigner que certaines de nos identités sont fallacieuses et qu'on doit travailler à leur dépassement. Ça, c'est le premier point, perspective idéaliste. Évidemment, les choses sont beaucoup plus complexes que ce que je raconte, mais un jour, j'ai été invité à une conférence où je devais représenter les chrétiens. C'était sur le thème de l'identité. Il y avait donc un juif, un musulman et un chrétien. Mais entre-temps, j'avais évolué. J'ai repris ce texte. Et j'ai exposé toute la douleur que me provoquait ce texte. J'ai essayé d'exprimer comment ce texte a pu servir des fins absolument horribles. Comment cet idéalisme au cœur de ce texte a pu permettre aux chrétiens, par exemple, de baptiser de force. Au nom du fait qu'il n'y a plus qu'un seul thème d'unité, Jésus-Christ. Comment, finalement, la force contenue dans ce texte, idéaliste et universaliste, et j'avais des juifs en face de moi, bien sûr, a pu aller jusqu'à nier le fait même d'être juif. J'ai fait sonner le « ni juif » à ce moment-là. Puisque, de toute façon, tout cela est dépassé, comme tu n'existes pas, autant que je passe à l'acte de ton effacement. Deuxième point, sortie de la perspective idéaliste. Et le troisième point, c'est aujourd'hui, Adrien. Parce que aujourd'hui, vous arrivez avec ce texte et vous le mettez en lien avec cet épisode très connu de l'Évangile selon Marc. Et donc, vous nous provoquez à chercher une solution entre cet idéalisme qui est parfois mortifère, c'est-à-dire la négation de l'autre, et la force quand même idéaliste de ce texte, parce que vous l'avez choisi, et c'est pas pour rien. Donc que faire? C'est la petite question de ce jour, qui va rester en suspens, parce que cette prédication n'en a plus pour longtemps. Alors j'ai réfléchi à ce sujet, évidemment. J'ai réfléchi à mon travail de pasteur et puis j'ai repensé à la Genèse, j'ai repensé à ce monde que crée Dieu, qu'il a créé dans une totale unité. Où effectivement, dans ce monde-là, il n'y a évidemment, et même pas potentiellement, il n'y a pas de juifs ni de grecs, voilà. La seule différence dans ce monde-là, c'est Dieu lui-même. Une altérité que je ne pourrais pas... Que je ne pourrais pas faire descendre. Cela dit, quand Dieu a créé ce monde à partir d'une masse confuse, il a fait un autre travail, il a opéré quelque chose qui était de tracer des limites entre le sec et l'humide, entre la terre et le ciel, des limites. Et c'est là où on peut trouver la raison de prendre ce texte et de ne pas en faire une arme. Il y a simplement une distinction à faire entre ces différences autoproclamées, parfois, qui sont peut-être accompagnées de la croyance qu'elles viennent du ciel, qu'elles sont quelque part et qu'elles descendent sur terre, et des limites. Il y a un drame, en fait, qui s'opère dans cet amour du prochain. Pourquoi j'aime mon prochain? Est-ce que je l'aime dans le fait que je crois qu'il est extrêmement différent et que cette différence, j'en fais une notion respectable? Ou, ne croyant pas à cette différence ultime, est-ce que je vais l'aimer parce qu'il me dit quelque chose de lui-même? Si tu me dis « je suis juif », par exemple, je ne vais pas dire « il n'y a plus ni juif ni grec ». Je me refuse de le dire. Je respecte ta propre parole. Alors, évidemment, pas toi, là, Adrien, en l'occurrence. Je crois que ta propre parole, en fait, dessine pour moi, même si tu crois que cette différence est un absolu, moi, je crois que c'est une limite. Et ce que j'aime dans cette limite que tu viens tracer, ou que je viens tracer, et qu'elle est évolutive, qu'elle peut bouger. Qu'aujourd'hui, beaucoup de limites ont bougé, justement, entre l'appréciation de l'espace, entre un homme et une femme, entre un juif et un chrétien. Récemment, ça a beaucoup bougé, entre ce que veut dire l'islam, comment il a été créé. Beaucoup de limites ont bougé dans la définition de l'Église. Donc ce ne sont pas des différences, ce sont des limites évolutives. C'est pour ça que je garde ta proposition de prendre ce texte très idéaliste de l'Épître aux Galates. Je crois profondément qu'il n'y a pas ni juif, ni chrétien, ni protestant dans le ciel des idées. Mais je crois que ces limites sont là, qu'elles sont évolutives, et que c'est grâce à ces limites-là que je peux, sans croire que c'est une différence, aimer mon prochain comme moi-même. Puisqu'il n'y a pas une différence absolue, comme moi-même. Et pour en revenir à ce petit texte de Marc, comme nous l'avons vu ensemble, je ne vais pas refaire l'exégèse, puisqu'elle a été faite quelque part sur le site et entre nous, mais bon, ce pauvre homme-là, il oublie tout simplement la moitié des commandements. Alors évidemment, ça, c'est pas un catéchumène, franchement. Il ne cite que les commandements qui ne concernent l'amour du prochain. Alors évidemment, Jésus l'aime, certes, mais il le trouve un peu bancal. Et il s'en va tout triste. Il s'en va tout triste parce qu'il est bancal. Il a oublié tous les commandements liés à Dieu. Mais s'il n'avait eu en tête que les commandements liés à Dieu et l'amour du prochain, et s'il l'avait oublié, il aurait été tout autant bancal. Lui, il est appelé, il va aimer son prochain, cet homme riche. Il les respecte, mais il les respecte dans un oubli majeur qui est la présence de Dieu qui réunit tous ses prochains dans une véritable unité. Et donc, il est bancal. Voilà ce que je voulais dire tout simplement un peu de vive voix aujourd'hui, sans forcément le texte écrit, malgré la préparation. Il y a une maison fraternelle ici, il y a un espace. Et ce n'est pas simplement une église qui accueille des activités. C'est plus que ça. C'est mieux que ça. Ce n'est pas un giron dans lequel peuvent s'épanouir des activités culturelles et artistiques. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Le but, c'est de se retrouver dans cette limite-là entre, par exemple, une association théâtrale comme Scribe, qui sait très bien qu'elle est dans une institution qui s'appelle église. Le problème n'est pas là. Et de se retrouver dans cette limite-là qui n'est pas une véritable différence. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être aussi pasteur et d'animer avec cette équipe ce projet-là de... au sens large de la maison fraternelle qui va au-delà même de ces bâtiments. Non, une maison fraternelle où nous pouvons aller plus loin que la constitution de nos différences. C'est pour ça que nous ferons la communion après le petit spectacle de Scribe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes là et que vous questionnez nos limites et vous découvrez comme notre frère. Voilà. Amen.